Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins font face au mystère tous les jours en compagnie de Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jean Danilou, Géraldine Mosna-Savoie et Antoine Ravon, à la réalisation Entrevue, Olivier Guérin, à la lecture des textes Ivan Illich Kless, avec aujourd'hui à la prise de son double, Jacques Ezubert et Jean-Guy Lamège. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui aujourd'hui vous donnera envie de lire le livre qu'Arianna Sforzini a consacré à la pensée du corps de Michel Foucault, disponible au PUF.
Chacun de nous est quelque chose d'extraordinaire qui ne vit qui n'apparaît qu'une fois dans toute l'histoire du monde. Il n'y en a qu'un comme vous, il n'y en a qu'un comme moi et un dans toute l'éternité. Et ça n'arrivera plus jamais. Comprenez-vous ce que ça signifie, ces deux mots, plus jamais.
Vladimir Jankélévitch, troisième temps, après le temps, justement, lundi avec Cynthia Fleury, la musique hier en compagnie de Philippe Grouzeau, et avant le charme de la morale, demain jeudi avec Joël Ancel, c'est aujourd'hui le philosophe Pierre-Michel Klein qui vient courageusement affronter le mystère de la mort.
Penser à la mort, c'est penser à propos, autour d'elle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire penser au... Je reçois une revue qui s'appelle Revue de Thanatologie, c'est une revue faite par des médecins, et cette revue de thanatologie, elle parle de tout sauf de la mort, à mon avis. Elle parle des funérailles, de la façon dont on a d'enterrer les gens, des problèmes qui se posent à propos de je sais pas quoi, moi, des enterrements, enfin, de toutes sortes de sottises du même genre. Et ça, c'est pas la mort, c'est les rites des hommes, parce que les funérailles, c'est fait pour les vivants. La mort, ça lui est bien égal. Qu'on le promène dans le corbillard, qu'on l'incinère ou qu'on l'enterre ou qu'on lui fasse n'importe quoi, ça c'est des soucis pour les vivants. Ce sont des sottises pour occuper les vivants. Mais justement parce que comme on ne sait pas quoi penser et on ne sait pas quoi faire, quand vous êtes devant une tombe, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, il n'y a rien dans cette tombe. Il n'y a absolument rien. Elle est vide. Le mort, il n'est pas là. Il est plutôt dans les souvenirs qu'il vous a laissés. Mon père n'est pas dans le cimetière où il est enterré, il était plutôt à sa table de travail, il est dans les livres qu'il m'a laissés, il est dans la pensée qu'il m'a léguée, il est dans ces choses-là, mais il n'est pas dans le cimetière. Dans le cimetière, il n'y a rien.
Au fond de son âme, Ivan Illich savait qu'il était en train de mourir. Mais non seulement il ne pouvait s'habituer à cette idée, mais il ne la comprenait pas. Ne pouvait simplement pas du tout la comprendre. L'exemple de syllogisme qu'il avait appris, Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, lui avait paru juste dans sa vie passée, seulement par rapport à Caius, mais jamais par rapport à lui. Ce Caius était un homme en général, et c'était parfaitement juste. Mais lui n'était pas Caius, et pas un homme en général. Il avait toujours été un être tout à fait différent de tous les autres. Il était Vania avec sa maman, son papa, avec Mitya et Valodia, avec ses jouets, avec le cocher, la bonne, et puis avec Katienka, avec toutes les joies, les chagrins, les fiertés de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Est-ce que Caius connaissait l'odeur de ce ballon de cuir à rayures que Vania aimait tant ? Est-ce que Caius baisait ainsi la main de sa mère ? Est-ce pour Caius que la jupe plissée en soie de sa mère froufroutait de cette façon ? Est-ce lui qui avait protesté à l'école de droit à propos des petits pâtés ? Est-ce que Caius avait été amoureux comme lui ? Est-ce que Caius savait présider comme lui une séance ? Tolstoï, La mort d'Ivan Illich.
Bonjour Pierre-Michel Klein.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes philosophe, président de l'association Vladimir Jankélévitch, auteur d'un ouvrage intitulé « Logique de la mort » disponible aux éditions du Cerf. C'est donc avec vous que nous allons faire cette troisième émission consacrée à Jankélévitch.
Je sais que je mourrai, mais je ne le crois pas. Je n'en suis pas intimement persuadée. Ivan Ilitch, dans le roman de Tolstoï, expérimente avec toute la répugnance qui va de mise, non pas le savoir de sa propre mort de manière théorique, telle qu'un syllogisme pourrait lui apprendre, mais l'expérience de l'imminence de sa propre mort. On a ici l'écart que Jean Kelevitch essaye de décrire dans l'ouvrage qu'il a consacré à la mort, entre savoir que l'on va mourir et le vivre de l'intérieur, en être intimement persuadé.
Mais écoutez, déjà, ça nous permet de faire la distinction initiale que Jean Kelevitch fait sur la mort. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de la mort ? Il fait la distinction entre la mort de général, c'est la mort de lui, la mort de il. La mort à la deuxième personne, c'est la mort de tu, c'est-à-dire du proche. Alors là, c'est aussi quelque chose de terrible, puisque notre affectivité, notre émotion nous envahissent. Mais en même temps, cette mort est la mort d'un autre, même si cet autre est proche. Donc, de proche, on en arrive à soi-même, c'est-à-dire la mort de je. Et lorsque Jean Kelevitch parle de la mort, ou lorsqu'on écoute la mort d'Ivan Ilitch, Tolstoï lui-même essaye de rentrer dans l'intimité de ce sujet qui, tout à coup, n'est plus un être général ou un homme en général, mais cet être qui non seulement est mortel, au sens général du terme, mais va mourir lui-même. Alors, ce qui est en jeu, c'est le soi-même. Ce que Jean Kelevitch, on en reparlera peut-être, appelle l'ipséité, c'est-à-dire le fait d'être soi-même et pas un autre. Et lorsque la mort tout à coup vous désigne, c'est vous-même et pas un autre. Donc la mort dont il parle, c'est la mort de vous-même et pas d'un autre. Et donc la mort de cette même-té qui fait que vous êtes vous-même, intime à vous-même, et que vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, que vous êtes le seul à savoir ce que vous y avez senti, et que vous êtes aussi le seul à essayer de saisir comment vous allez affronter quelque chose qui est inaffrontable, à savoir votre propre disparition. Donc la mort dont parle Jean Kelevitch, lorsqu'il dit la mort, lorsqu'il dit lorsqu'on va au cimetière, il n'y a rien à faire et on est un peu ridicule, non, on n'est pas ridicule, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une mort en un autre sens. La mort de lui ou la mort de tu, la mort de son père, de sa mère, qui est presque la nôtre, mais qui n'est pas la nôtre. Et la mort dont il parle, la mort d'Ivan Ilitch, c'est la mort de soi. Donc c'est de cela qu'il s'agit, la mort, c'est ma mort.
Il y a peu de philosophes qui s'adressent autant à la condition mortelle de l'homme, puisque vous l'avez dit, la mort telle que l'entend Jean Kelevitch est finalement ce qui va singulariser chaque existence humaine. Il ne s'agit certainement pas de la mort en général, et tout le texte de Jean Kelevitch consacré à la mort ne cherche pas à étouffer le scandale de la mort. Au contraire, il dit mais c'est le seul problème qui ne soit pas un faux problème. S'il ne doit rester qu'un problème, c'est bien celui-là, puisqu'il est déterminant de mon existence singulière, subjective. Et pourtant, il ne cesse de dire qu'il est impossible de parler de la mort. Il écrit 500 pages pour dire qu'il est impossible de parler de la mort. Alors en quoi consiste ce travail de philosophe pour essayer de nommer quelque chose qui est innommable?
C'est évidemment incompréhensible, mais c'est incompréhensible comme un mystère. Et le mot mystère est un terme qui est au fond le fil d'Ariane au fil duquel Jean Kelevitch essaye de penser la mort. La mort est un mystère, mais un mystère, on peut essayer de définir ce que c'est que ce mystère. Et toute la philosophie de Jean Kelevitch est une philosophie du mystère. Le mystère de l'instant, le mystère du temps, mais aussi le mystère de notre existence, le fait que nous soyons apparus et puis que nous sommes destinés à disparaître. Tout cela, ce sont des mystères. Et à propos, on peut distinguer là justement entre un mystère et un problème. Donc on a dit que la mort est un problème. Non, la mort n'est pas un problème, la mort est un mystère. Un problème, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on est en extériorité. problème, c'est quelque chose qui est jeté devant soi et puis qu'on peut essayer
au fond, une solution.
Qu'on peut essayer d'éviter. Vous voyez, comme un rocher est devant moi ou une montagne à gravir, eh bien je peux essayer de la gravir. C'est un obstacle, c'est aussi devant. Vous voyez. Mais la mort n'est pas un problème. Le problème, c'est un mystère, c'est-à-dire qu'au fond, je ne suis pas à l'extérieur de la mort, je suis à l'intérieur, enfin je suis directement concerné et en même temps, paradoxalement, c'est quelque chose que je n'ai pas encore atteint. Et d'une certaine manière, paradoxalement encore, on en parlera peut-être aussi, c'est quelque chose que je n'atteindrai jamais. Donc c'est d'autant plus mystérieux que le fait d'avoir à mourir, c'est quelque chose qui pour moi est impossible, ce qui n'est pas du tout d'actualité, qui d'une certaine manière n'est jamais complètement d'actualité, même jusqu'à la dernière seconde. Et au moment où ça sera absolument d'actualité, ben je ne pourrais même pas savoir ce que le mot actualité signifie. C'est-à-dire qu'au fond, je ne rencontrerai jamais la mort à laquelle je suis nécessairement destiné. Alors, ça va dans le sens de ce que Jean Kilevitch appelle l'impossible nécessaire. Alors on pourra peut-être
alors vous avez distingué, vous avez dit, la mort n'est pas un problème, le mystère n'est pas un problème, le mystère n'est pas non plus un secret. C'est Jean Kilevitch qui fait la distinction.
La mort est un mystère parce que ce n'est pas un secret. Les gens croient toujours qu'il y a un secret, que je vais le sortir de ma poche, n'est-ce pas, qu'il est contenu quelque part. Et la définition du mystère, c'est que justement, ça ne peut pas être un secret. Dans aucun des trois chapitres, je ne parle vraiment de la mort avant, la mort pendant, la mort après. Alors, à quel moment est-elle la mort ? Bien sûr, pas avant, puisque avant, on est vivant. Donc, c'est pas la peine de parler de la mort. Seulement, malheureusement, c'est le chapitre sur lequel on a le plus à dire. C'est pas sur la vie, la mort dans la vie. C'est là qu'on ne tarit pas. Nous sommes en pleine plénitude. Alors, la mort pendant, ça serait le plus passionnant. J'ose dire que c'est le point sur lequel qui m'a le plus intéressé. C'est peut-être pas le plus long chapitre, mais c'est celui que j'aurais voulu le plus personnel, mais je sais pas s'il l'a été. Seulement la mort pendant, ça ne dure qu'un instant, alors à tout moment où vous êtes vivant ou vous êtes mort, et on ne sort pas du dilemme des épicuriens à cet égard. Pendant que vous êtes vivant, on ne peut pas parler de la mort, et bien quand vous êtes mort, vous savez peut-être ce que c'est, mais vous ne pouvez plus en parler. Alors on ne peut jamais réunir les deux à la fois, c'est-à-dire d'être mort et pouvoir en parler, ou bien vous êtes vivant et vous ne pouvez pas parler d'autre chose, car je dirais de la mort, ce que Gabriel Marcel dit de Dieu, tout le monde parle d'autre chose. Parler de la mort, c'est parler d'autre chose.
La difficulté est, à partir du langage, de penser tout ce qui est pensable dans l'impensable de la mort. Cette difficulté est presque une impossibilité. Presque, mais pas tout à fait, cependant. Il s'agit d'un jeu acrobatique avec quelque chose qui n'est rien et sur quoi il n'y a rien à dire. On pourrait répéter de la mort de ce que nous disons du temps. On ne peut penser qu'à propos d'elle ou autour d'elle, obliquement, en glissant à côté. En somme, l'ironie du sort fut d'écrire tout un livre pour dire qu'il n'a rien à dire sur la mort. C'est ce qui m'est arrivé. Mais pour dire, pour expliquer qu'il n'y a rien à dire, il faut beaucoup de mots. La philosophie apophatique a besoin de beaucoup de paroles pour dire que la mort, que le temps, que la musique sont indicibles et pour détourner les hommes des vains babillages. Permettez-moi de l'avouer, j'ai écrit ce livre, La mort, dans l'espoir qu'il n'y aurait pas d'autre livre sur la mort, dans l'espoir que ce livre sur la mort serait le dernier. Pierre-Michel Klein, la volonté de Vladimir Jankélévitch de penser la mort non seulement comme événement, mais comme rétroactivement comme ce qui va déterminer ma propre vie, et puis également comme l'événement qui succède à ma vie, puisque dans le livre sur la mort, il y a trois parties, hein. Il y a comme un avant la mort, un pendant la mort et un après la mort. On y entend cette volonté de faire le tour de ce qui est innommable, là encore, de saisir un événement par les mots, mais de faire date. C'est vraiment, il veut que ce soit le dernier livre sur la mort. Il veut dire une fois pour toutes que l'on ne peut rien en dire, mais que cet événement est déterminant.
Oui. Si vous avez bien remarqué, Jean Kilevitch a dit qu'il a distingué trois parties dans son livre. La première, ce qu'on peut dire de la mort avant la mort, ce qu'on peut dire de la mort pendant, c'est-à-dire l'instant même de la mort, et puis ce qu'on peut dire après. Et il a ajouté, finalement, tout ce que j'ai écrit sur ce qu'on peut dire avant, c'est pas exactement ça qui m'intéressait le plus. Ouais. Et donc on ne va pas trop, je pourrais développer là-dessus, mais il vaudrait mieux dire, aller dans son sens et se demander qu'est-ce qu'il a dit, justement. Parce qu'il a écrit un gros livre, et pour ne rien dire, non, il a dit des choses. Et je voudrais essayer de dire un peu ce qu'il a dit. Et non pas cette impossibilité de dire. Et ce qu'il a dit d'essentiellement, ce qu'il faudrait presque retenir, c'est cette idée étrange et qui fait appel à une sorte de logique étrange qui est celle de Jean Kelevitch. C'est cette notion d'impossibilité nécessaire. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il est nécessaire d'une certaine manière de mourir. Un jour nous mourrons, tout le monde sait. Chacun sait qu'il va mourir. Donc, au fond, c'est une sorte de nécessité, pas seulement en général, mais quelque chose dont je sais que je n'y échapperai pas. Bon, bien que je ne sache pas trop ce que je sais quand je le sais, je le sais tout de même. Je sais que je vais mourir, même si je ne sais pas quand, comment, ni pourquoi. Et d'un autre côté, et c'est là que c'est très étrange, c'est lorsque Jean Kelevitch insiste sur cette notion que c'est impossible. C'est-à-dire, lorsque je suis vivant, tout ce qui est de l'ordre de ma conscience, de l'existence qui est la mienne, va dans le sens de l'avant, du futur. Je vis et je suis, et il n'y a aucune raison pour que ça cesse. J'ai des projets, je vais aller me promener dans les bois. Et même Ivan Illich, lorsqu'il essaye de penser sa mort, c'est quelque chose de scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'il va dans le sens de la vie, il n'y a aucune raison qu'il cesse de vivre. Et pour qu'il cesse de vivre, il y a une sorte d'accident dans Ivan Illich. Il faut qu'il y ait une sorte d'accident. Et même l'être le plus âgé, eh bien, Jean Kelevitch insiste pour dire oui, on pourrait vivre quand même une minute de plus, une année de plus. Donc la vie, elle est faite pour vivre, et pourtant à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est une sorte de principe invisible et inexorable qui fait que nous sommes tout de même destinés à cette nécessité de disparaître. Bon, mais le mot impossible, lorsqu'il dit mais c'est impossible, lorsqu'Ivan Illich crie page après page, que c'est impossible. Ou quand quelqu'un qui est devant la mort, ou qui a peur de la mort pour une raison qu'il ait une certaine maladie, ou, pour lui aussi, il y a quelque chose d'impossible, de scandaleux. La vie, elle est faite pour vivre. Et il est impossible que la vie ne vive pas. Mais lorsqu'on dit « oui, c'est impossible », mais d'un autre côté, cet être-là, il va mourir, il va disparaître. Nous allons tous disparaître. Tous les gens qui sont là en train de nous écouter, nous-mêmes, nous allons disparaître. Eh bien, l'impossibilité qu'on énonce lorsqu'on dit c'est impossible, il ne faut pas considérer comme dans la logique ordinaire que cette impossibilité est une illusion. Lorsque je dis c'est impossible que je vais mourir, ce n'est pas une illusion, c'est vrai.
Qu'est-ce qui est vrai ? Cette impossibilité ?
Cette impossibilité est vraie.
Qui est en fait de l'ordre de l'inconcevable ?
Non. L'impossibilité, c'est-à-dire le fait que la vie est, doive continuer de vivre, c'est un fait de l'être. Et la mort vient étrangement supprimer l'être qui n'a rien à faire avec la mort. Donc, alors évidemment, je vais dire c'est impossible et pourtant, on va mourir. Donc, alors, qu'est-ce qui fait la vérité de l'expression « c'est impossible », comme lorsque une maman voit son enfant malade et a très peur pour lui, et puis il dit c'est impossible, ou bien le malade qui est tout à coup désigné par une maladie et qui dit mais non, c'est pas possible. Et lorsqu'il dit c'est pas possible, on dit mais c'est le médecin va lui dire c'est une illusion, c'est très possible. Eh bien non, c'est impossible. Alors qu'est-ce que Jean Kelevitch veut dire lorsqu'il dit c'est vrai de dire que c'est impossible, mais la mort, elle ajoute à cette impossibilité qui est vraie une autre vérité qui est celle de la nécessité de disparaître. On en arrive donc à cette espèce d'instant mortel étrange, mais aussi de l'après la mort qui est aussi étrange, à savoir du mixte qu'il faut saisir en tant que mixte. C'est ce que Jean Kelevitch appelle l'alternative, c'est-à-dire qu'on est renvoyé, l'impossibilité renvoyée à la nécessité. Je sais que c'est impossible que je meure, et pourtant je sais que je vais mourir. Alors quand je dis c'est impossible que je meure, je suis renvoyé à la nécessité de disparaître, et lorsque je parle de la nécessité de disparaître, je suis renvoyé aussi à cette impossibilité que je ressens aussi profondément. Et d'ailleurs, ce que je ressens le plus profondément lorsque je suis conscient de moi-même, c'est la continuité de mon existence et de mon être, et non pas sa disparition. Alors Jean Kevitch, au moment où il parle justement de l'instant de la mort, et lorsqu'il parle aussi après la mort, donc les sujets qui l'intéressaient davantage que les longs chapitres qu'il a consacrés à avant la mort, eh bien, il va penser de manière métalogique, c'est-à-dire au-delà de la logique, il y a une autre logique, et c'est la logique de la mort. Et cette logique de la mort, c'est l'unité étrange de l'impossibilité qui exclut la nécessité et qui pourtant est reliée à elle.
C'est ce que Jean Kelevitch appelle le paradoxe de l'instant mortel, où il y a à la fois continuité et discontinuité. C'est dans la deuxième partie du livre La mort. Écoutez.
L'homme finit par mourir à force de vieillir. Et pourtant, la mort, si elle est le terminus de la décrépitude sénile, n'en est pas à la lettre la conclusion, puisqu'on peut rester décrépit très longtemps sans mourir, et mourir bien avant d'être décrépit. Le cœur cesse de battre parce qu'il est délabré, et il cesse aussi de battre en dehors de tout délabrement, en sorte que personne ne meurt à proprement parler de vieillesse. Et de la même manière, la goutte d'eau qui fait déborder le vase est une goutte comme toutes les gouttes, et en même temps ce n'est pas une goutte comme les autres gouttes, puisqu'elle détermine un événement nouveau. Elle est la goutte critique et décisive sans laquelle le débordement ne se serait peut-être jamais produit. Cette dernière goutte, qui s'ajoute aux autres et même se confond avec elle, n'est pas simplement le degré maximal d'une action homogène et continue. La dernière goutte a donc toute l'importance et toute la solennité du dernier instant. Le dernier instant, en effet, est un instant comme les autres, et ce n'est pas un instant comme les autres, c'est un instant indiscernable des autres, et aucune horloge ne le signale particulièrement à notre attention. Mais, d'autre part, cette minute finale, que rien ne distingue des précédentes, est une minute tout à fait à part, et, si l'on peut dire, une minute privilégiée. Et il faut bien que cet instant ait quelque chose de particulier, puisque nous l'appelons l'instant suprême. Il n'est rien de plus que les autres, et il est infiniment plus.
La mort me hante, la vie m'épouvante. Dans ses limites acceptées, je vivrai pleinement ma vie en douleur attentive, en plaisir épanoui. L'autre me fait chier, j'ai moins d'espace. Mais qu'est-ce que je ferais toute seule? Mais qu'est-ce que je ferais toute seule?
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à Vladimir Jean Kelevitch. Et pour l'occasion, après avoir parlé du temps lundi, de la musique hier mardi, c'est de la mort chez Jean Kelevitch que nous parlons, en compagnie du philosophe Pierre-Michel Klein, auteur notamment de Logique de la mort, un ouvrage publié au Cerf.
Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais tant aimé danser. Jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais tant aimé danser. Jusqu'à la fin de mes jours.
Pierre-Michel Klein, le texte que nous avons entendu interprété par le comédien Georges Claes, donc ici de la deuxième partie de l'ouvrage La mort de Jean Kelevitch, un ouvrage qui est sorti en 1966, il faut aussi l'entendre en l'inscrivant dans une forme d'histoire de la philosophie. Jean Kelevitch reproche aux philosophes qui l'ont précédé de ne pas avoir su prendre en compte cet instant qu'est la mort. La mort est un instant, il parle de cette goutte d'eau qui fait déborder le vase et basculer donc de la vie à la mort. Il prend l'exemple de Socrate qui stoïquement boit la ciguë qui va le conduire à la mort et il lui fait ce reproche hein, d'avoir escamoté ce seuil de la mort, de ne pas avoir pris en compte ce qui n'est qu'un instant et qu'en cela il est absolument insaisissable. Mais en tant que philosophe, il essaye lui de penser cet instant non pas du dehors mais bien du dedans. Et c'est en cela que ça constitue un défi philosophique hors norme.
Oui, ce sont de nombreuses lignes, justement, dans la partie concernant l'instant de la mort, qui définit la manière dont Jankevitch entend la mort, lui. La mort, ce n'est pas rien. Lorsqu'il dit de Platon dans le Phédon, lorsqu'on parle de la mort de Socrate, eh bien, il y a une sorte de conversation, puis tout à coup, Socrate... meurt et pour lui il va rejoindre ses ancêtres pour discuter avec lui ou avec eux. Mais la mort est escamotée, c'est-à-dire qu'au fond il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, mais pour Jankevitch, si, il s'est passé quelque chose. Il critique aussi la philosophie de Leibniz concernant justement l'amoindrissement. Mmh. On dit alors on s'amoindrit, on peut penser cela aussi peut-être en vieillissant. On dit tiens, je suis de moins en moins vivant, mais non, on est toujours vivant évidemment. Et jusqu'à la dernière seconde, on est toujours vivant. Donc il n'y a pas d'amoindrissement parce que. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui arrive, un instant qui est un instant tout à fait différent des autres instants et qui est donc le mourir, ce qui est une sorte d'acte. Alors d'événement, d'acte, mourir est un verbe après tout. Donc il essaye de savoir au fond qu'est-ce que c'est que cet instant de mourir et qui n'est pas à escamoter, c'est-à-dire qui n'est pas rien. Et en même temps, qui a l'air de ressembler à tous les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qui ressemble à tous les autres? Ça veut dire que dans toute notre vie, nous avons des expériences, on appelle ça la vie empirique, la vie de toutes nos expériences. Et la dernière seconde, eh bien, c'est étrange parce que nous en avons l'expérience, mais en même temps, nous n'en avons pas l'expérience. Le mourir, l'instant de mourir, c'est l'expérience de mourir qui n'est pas une expérience puisqu'on meurt. Donc on est dans aussi le paradoxe, mais il faut entendre ce qu'on entend par paradoxe. Le paradoxe, c'est ce que je disais tout à l'heure de l'impossible nécessaire, c'est-à-dire l'unité des contradictoires, mais l'unité des contradictoires, l'unité de ce qui s'exclut. Lorsque à l'instant de la mort, à la fois, je suis encore vivant, mais non, puisque je suis mort, mais en même temps, je suis mort, mais non, puisque c'est l'instant de la mort, ce n'est pas encore quelque chose... Qui vient après, dans la mesure où
Mais ça, c'est loin d'être le premier à l'avoir dit. Hein, les textes, on peut remonter jusqu'à la lettre à Lucilius, qui énonçait déjà ce paradoxe qui fait que l'on ne peut pas vraiment penser la mort.
Non.
En quoi est-ce que Jankevitch lui-même peut penser cet instant de la mort qui, par définition, est impensable, puisqu'il implique de penser l'après de la mort. Or, comme nous sommes morts, nous ne pouvons pas le penser.
Oui, mais alors ça serait plutôt la pensée d'Épicure qui dit « la mort n'est rien pour nous », puisque là aussi, il y a un escamotage. La mort n'est rien pour nous, puisque lorsque nous sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Et lorsque nous ne sommes morts, eh bien, nous ne sommes pas vivants. Et par conséquent, dans les deux cas, ou bien j'ai conscience de vivre et je vis, ou bien je suis mort et je n'ai aucune conscience. Donc la mort n'est rien. Et donc jouissons de l'existence d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est la pensée d'Épicure. Non, ça, c'est aussi un escamotage. Parce que l'instant de la mort, c'est, et j'insiste là-dessus, c'est l'unité des contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a et quelque chose qui est, mais qui est en fait de l'ordre de l'événement, et puis le fait que nous passons à un tout autre ordre, et qui est non pas un tout autre monde, mais un tout autre ordre, quelque chose d'absolument à la fois insaisissable et inimaginable, quelque chose qui est tout autre, pas seulement autre, mais tout autre. Donc ce qui est important, c'est la conjonction des incompatibles. D'ailleurs, il prend un exemple parlant, il parle des amants qui à la fois ne peuvent pas se supporter et sont toujours en train de se déchirer et qui en même temps ne peuvent pas se désunir et se quitter.
Mais en quoi lui-même ne se situe-t-il pas à l'extérieur de cet événement, de cet instant qu'il essaye de décrire dès lors qu'il prend en compte même l'après la mort? Réfléchir sur la mort, c'est toujours se situer à l'extérieur puisqu'en tant qu'événement, on ne peut qu'y assister. Le jour où nous sommes nous-mêmes le sujet de cet événement, nous ne pouvons plus y réfléchir puisque nous mourrons.
Oui. Bien
donc, il reconduit en quelque sorte ce qu'il reproche
non,
aux autres philosophes.
Non, c'est pas en tant que mort qu'il parle. Évidemment, on continue d'être renvoyé à l'impossibilité de parler de la mort. Mais Jean Kelevitch est un philosophe de l'ironie, un philosophe de la paradoxologie, comme on dit. Mais au sens où, lorsqu'on dit quelque chose, on est renvoyé à l'opposé de ce qu'on dit. Et lorsqu'on dit l'opposé de ce qu'on dit, on est aussi renvoyé, et il appelle ça la collision. Donc lorsqu'il parle de la mort, il subit le reproche que vous venez de faire, mais vous ne pouvez pas parler de la mort puisque vous êtes vivant. Oui, je suis vivant. Mais en tant que vivant, eh bien, je suis quand même renvoyé à cette question de la mort sur laquelle je peux parler en tant que c'est un mystère et qu'il y a un certain nombre de mystères qui m'ont appris pour ce qui les concerne, qu'on peut saisir des mystères, en même temps qu'ils sont insaisissables, exact, le mystère de la musique, le mystère de l'amour, le fait qu'on rencontre quelqu'un, et puis on éprouve rien pour cette personne, et puis tout à coup, brusquement, on éprouve de l'amour pour elle, et là, on passe à un autre monde. Mais cet autre monde n'est pas un tout autre monde comme la mort, c'est un autre monde qui est celui de l'amour, mais en même temps, c'est quelque chose qui est soudain, qui est incompréhensible, qui est insaisissable. Alors ce mystère de la rencontre, de la brève rencontre à partir de laquelle une vie amoureuse va avoir lieu, cette brève rencontre du coup de foudre qui peut se répéter, eh bien c'est un mystère là aussi. Donc on peut parler du mystère, mais évidemment il faut parler du mystère de la mort autrement, parce que lorsqu'on parle du mystère de la musique, ou du mystère du charme, ou du mystère du je ne sais quoi amoureux, eh bien on peut encore être dans la continuation, dans les mémoires, et avoir le temps d'en parler. Sauf que le mystère de la mort, on n'a pas le temps d'en parler. Reste que c'est un mystère, et que d'un mystère, on peut parler, bien qu'on soit renvoyé à son impossibilité d'en dire quelque chose.
Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. La mort de Lope de Vega m'a été contée par une personne digne de foi. Une semaine avant sa mort, ne doutant pas qu'elle fût proche, il dit à son médecin, « À la seconde où tout espoir sera perdu, ne manque pas de m'avertir que je vais passer de vie à trépas. »« Ah, et pour quelle raison ?» demanda le médecin. « Parce que, répondit-il, j'ai une révélation à faire, d'une importance extrême, mais pour ne pas la conserver par-devers moi, il faut que je sois absolument certain de ne pas lui survivre. 8 jours plus tard, le médecin ayant constaté que les battements du cœur de Lope de Vega devenaient à peine perceptibles, il se pencha à son oreille et lui dit, « Lope de Vega, tu vas mourir. » Alors Lope de Vega fit un très grand effort et laissa tomber ces mots dans le silence, « Dante m'a toujours emmerdé. »
Ce qui est surprenant, Pierre Michel Klein, c'est que Jean Kelevitch ne s'arrête pas à ce qui semble être le cœur de sa pensée sur la mort, hein, ce basculement de l'instant, ce paradoxe de l'instant qui fait que la vie et la mort se rejoignent ou se succèdent. Mais il écrit une troisième partie de son livre, on l'a entendu en parler tout à l'heure dans l'extrait d'une émission, c'était en 67. La troisième partie s'intitule « La mort au-delà de la mort ». Comme si là, il faisait fi de toute forme d'expérience, puisque par définition, nous ne pouvons pas parler de l'au-delà de la mort, nous n'y sommes pas encore si nous écrivons. Et c'est d'autant plus surprenant que lui-même insiste sur une forme disons, d'inutilité d'un recours à Dieu, le désespoir dans lequel nous pourrions, la mort pourrait nous plonger, ne peut pas avoir pour solution une forme d'illusion, de mensonge, de réconfort, qu'il soit religieux ou autre. Alors pourquoi cette prise en compte de la mort au-delà de la mort, et est-ce que lui-même ne pêche pas en quittant la position de mortel? Écrire au-delà de la mort, c'est un peu se prendre pour Dieu, quand même. Pierre Michel Klein.
Non, je ne crois pas qu'il Shankevitch se prenait pour Dieu. Simplement, il essayait de dire tout ce qu'il est possible de dire, ou tout ce que les mots nous permettent de dire concernant quelque chose sur quoi il n'y a absolument rien à dire. Comme on dit, personne n'est jamais revenu, etc. Eh bien, il va quand même dire quelque chose. Alors, je vais essayer de faire comprendre, si moi-même j'ai compris, cette difficile troisième partie, la mort après la mort. Alors, comment ça s'organise? Par deux moments essentiels qui sont, d'une part, que la survie, l'idée de la survie, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la survie de l'âme ou la survie par la métempsychose ou une quelconque palingénèse, cette survie est chimérique. Elle est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que d'une certaine manière, là aussi, on escamote la mort quand on dit ça. Parce que la mort, lorsqu'on dit qu'on va survivre, eh bien, on a un certain nombre de repères sur ce que ça peut vouloir dire vivre ou avoir conscience ou savoir que les choses sont ou qu'on est au paradis plutôt que sur Terre. Eh bien, au fond, c'est qu'on reste un petit peu dans le même ordre de choses que de la vie. C'est le même ordre de choses de la vie. Un petit peu comme lorsque nous vivons, nous sommes dans le même ordre, même si nous vieillissons. Le jeune n'est pas l'homme adulte, l'adolescent n'est pas l'adulte, l'adulte n'est pas complètement le vieillard. Mais en même temps, c'est quand même un peu du même ordre. Ce sont des transformations de l'existence. Eh bien, lorsque le vieillard où l'homme va mourir, eh bien, lorsqu'il dit qu'il va survivre, eh bien, il essaye de reporter quelque chose qui est du même ordre, comme si c'était un vieillissement supplémentaire, un moment du temps supplémentaire. Et donc, on reste dans le monde, dans nos habitudes de pensée. Alors, ça, c'est un escamotage. C'est absurde. Lorsqu'on dit la mort et qu'on prend la mort au sérieux, ce n'est pas une altération de l'existence, c'est-à-dire un devenir autre. Ce n'est même pas quelque chose de l'ordre du devenir, parce que le devenir, c'est un devenir autre. Hein ? C'est l'absurdité de toute forme de survie, c'est justement qu'on ne prend pas la mort au sérieux, que la mort, c'est le passage non pas à un autre, mais à un tout autre. Et le mot « tout » est très important chez Shankevitch. C'est de la totalité qu'il s'agit. La mort, c'est la totalité qui est bouleversé. Et le mot bouleversé n'est même pas suffisant. On passe non pas à un autre ordre des choses, mais à un tout autre ordre des choses, dans lequel, effectivement, alors là, nos habitudes de pensée, nos logiques sont inefficients. Mais lorsque je dis ça, la physique actuelle, là, je ne parle plus de la métaphysique ni de la philosophie. La physique, les physiciens ne sont pas étonnés maintenant de parler d'autres logiques, d'autres mondes, de phénomènes qui sont incompréhensibles dans notre empirie, mais qui sont vérifiés dans l'expérience. Bon. Eh bien, Shankevitch, il a un peu cette pensée qui est celle des physiciens quantiques, j'aurais presque à dire. C'est-à-dire que lorsqu'il pense à la mort, il passe au tout autre monde qui n'est pas du tout celui que nous décrit une quelconque religion ou une quelconque croyance. Ça, c'est la première chose, l'absurdité de la survie. Mais en face de ça, il y a l'absurdité de la nihilisation. C'est-à-dire, aussi absurde est l'idée qu'il va y avoir une transformation dans quelque chose qui ressemble, aussi absurde de penser qu'il va y avoir un anéantissement absolu. Alors là aussi, il y a une absurdité, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à penser. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à penser, à comprendre chez Shankevitch, c'est cette partie dans laquelle il essaye de se battre avec l'idée que la nihilisation est absurde.
Écoutez, il va nous le dire lui-même, c'était en 1967, une archive INA de l'émission Interactualité.
Si la survie, pour moi, j'ai rien à en dire, n'est-ce pas ? Je laisse la parole aux religions. Par contre, le néant n'a rien de clair. L'anéantissement, moi, ça ne me satisfait
pas.
Je ne sais pas si ça vous satisfait,
non.
Vous.
Non,
mais moi, j'avoue que l'anéantissement, mon anéantissement, le mien personnel, qui me choque particulièrement d'ailleurs, cet anéantissement me paraît une idée absolument confuse et obscure, dans laquelle je ne mets rien de pensable. Vous me direz que c'est négatif, mais en ce cas-là, il faut se contenter de pas grand-chose. Deuxièmement, ce n'est pas une espérance, mais c'est le message de quelqu'un qui a vécu, n'est-ce pas? Et alors, quand quelqu'un est mort, un être cher, pour prendre l'expérience de la mort la plus courante, enfin, celle qui parle le plus éloquemment à chacun de nous, la plus poignante, la disparition d'un être cher. Alors, c'est cette promenade que le destin lui a fait faire, cette promenade de 70 ans, de 80 ans, dans le firmament du destin, qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un est né, a vécu, est mort, est disparu, sans laisser l'adresse, n'est-ce pas? Sauf le cimetière. Et vous trouvez que c'est clair? Eh bien, c'est là que réagit pour moi l'espérance. C'est la surnaturalité de ce message. Qu'est-ce qu'il signifie? Je ne veux pas dire que ce quelqu'un est quelque part maintenant, qu'il m'entend. N'est-ce pas? Qu'il m'entend, qu'il a un fil spécial avec moi, et qu'il est comme les auditeurs invisibles qui nous écoutent maintenant. Je veux pas, il n'est nulle part, et il est en dehors du temps. Mais le fait qu'il a vécu, cette promenade dans le destin, est un profond mystère, un mystère qui est pour moi consolant et est un principe d'espérance. Je ne sais pas si c'est très clair.
C'est très clair, Pierre-Michel Klein. Vladimir Jankélévitch énonce une idée que nous n'avons pas encore évoquée, qu'il est temps de dénoncer au moins à 5 minutes de la fin de l'émission, c'est celle d'espérance. Alors pourquoi parle-t-il d'espérance alors que nous sommes au-delà de la mort? Il le dit lui-même après cette vie, c'est-à-dire cette promenade dans le firmament du destin. Eh bien, je ne peux pas ne pas avoir été. C'est ça, c'est ce qu'il appelle ce viatique pour l'éternité, hein. Le fait d'avoir vécu et d'être mort, non seulement signe ma propre singularité, mais est irrévocable. Ma vie ne pourra jamais ne pas avoir été vécue. Et c'est ce qu'il nomme ici une forme d'espérance, voire de consolation de cette mort.
C'est pas une consolation.
C'est vrai que c'est pas. Non, c'est vrai, je retire ce terme. Parce que peut-être que ça ne console
mais,
pas. Quoi
oui,
que,
mais c'est une espérance. Pas, c'est... Peut-être une espérance. Bien sûr, lorsqu'on a lu Jankélévitch, lorsqu'on parle de Jankélévitch, on pense aussi à ce qui est écrit sur sa maison, un quai aux fleurs, que le fait d'avoir vécu, c'est quelque chose d'ineffaçable.
Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Désormais, ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu est son viatique pour l'éternité.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on retient généralement de Jankélévitch. Et c'est vrai que c'est une pensée forte, mais c'est pas la pensée principale, à mon avis, de ce qu'il dit dans la troisième partie. Il le dit, bien sûr, et c'est très important de savoir que le fait qu'on ait vécu, c'est, on dirait, on croit qu'est vadio kafitspul, c'est quelque chose comme ça me fait une belle jambe, mais en fait, c'est quand même quelque chose. Non, ce qui est le plus important, c'est autre chose. C'est quand même cette histoire de l'absurdité, justement, de l'annihilation. Il essaye de la prouver, cette absurdité, puisqu'il s'agit quand même d'un terme logique. Alors, comment il en parle? De la manière suivante, il nous dit, bon, qu'est-ce qui cesse lorsque je vais mourir? Ce qui cesse, évidemment, c'est le fonctionnement, l'organisation des organes et des neurones du cerveau. Mais cette complexité-là matérielle ne suffit pas. Ce qui cesse, ce que c'est que la mort, on l'a dit au début, c'est la mort du « je », c'est-à-dire la mort de moi-même. Et ce « moi-même » intime avec moi-même qui vit et qui suis conscient, c'est ce « moi-même » qui meurt. Or, cette ipséité, c'est une totalité. Et la totalité, le terme qu'il utilise pour parler de la totalité, ce qui fait que la totalité est une totalité, et non pas un assemblage de parties et d'organes, c'est ce qu'il nomme justement le « je ne sais quoi ». Le « je ne sais quoi », c'est ce qui fait qu'un tout a du charme, a une existence, que ce petit bébé qui vient de naître, c'est lui-même, et non pas un autre. Et ce lui-même qui n'est pas un autre, mais qui est bien lui-même, c'est ça qui meurt. Alors ça n'est pas compris dans le principe de conservation. C'est comme si, oui, bien sûr, le principe de conservation fait que tous les atomes dont on est constitué, ils vont se désagréger et constituer des agrégats différents. Mais ce n'est pas ça qui meurt. Ce qui fait la mort, c'est le je ne sais quoi par lequel j'étais une totalité vivante et qui était moi-même. Or cela, qu'est-ce que ça devient? Et donc, cette espèce de reste qu'il appellerait mais empirique, c'est cette espèce de reste qu'aucune description ne peut saisir. En ce qui concerne le fait que je suis moi-même et non pas l'assemblage des membres de mon corps, bien c'est cela qu'il est absurde de penser comme étant nihilisé. C'est ce quelque chose qui remurmure et qui fait, par exemple, que il prend l'exemple de Pythagore. Pythagore a laissé quelque chose d'éternel. Il a des pensées extraordinaires pour l'humanité. Mais Pythagore lui-même, il meurt. Et pourtant, il y a quelque chose que la totalité Pythagore, la personne de Pythagore, a donné à l'humanité, bien que ce soit universel, eh bien ces pensées universelles qui restent l'expression d'un individu singulier qui était Pythagore, un petit peu comme le reste universel qui est l'individu singulier Van Gogh qui a peint l'église d'Auvers sur Oise, eh bien ce tableau lui-même qui est absolument unique, cette trace unique, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'anéantissement au sens matériel, d'une certaine manière, auquel on peut penser. Donc c'est cela l'absurdité de l'annihilation. C'est l'anéantissement de ce qui fait qu'une personne est une personne, forme un tout qui n'est pas la somme unique de ses parties organiques.
Chaque mort compte, donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Michel Klein d'être venu nous parler de Jankélévitch aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que j'ai déjà cité, hein, Logique de la mort aux éditions du Cerf, et puis un recueil de poésie Perpétuels augures avec une préface de Vladimir Jankélévitch. C'est aux éditions de La Grisière. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, le Requiem de Gabriel Fauré. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient nous parler d'un ouvrage de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Nous quittons la mort pour aller vers Foucault, c'est ce que vous nous proposez.
Et vers le corps, en fait. À l'occasion de la parution de Michel Foucault, Une pensée du corps, d'Arianna Sforzini aux éditions PUF. Quand on lit Foucault, il est difficile de passer à côté d'un protagoniste, incontournable et multiforme, le corps. Le corps traverse en effet toute son œuvre, de la naissance de la clinique de 1963 à son histoire de la sexualité, dont le dernier volume paraît en 1984. C'est par exemple le cadavre ouvert sur la table d'autopsie de Bichat, mais c'est aussi le corps docile de l'ouvrier discipliné et branché sur la machine, ou encore le corps comme chair soumise aux normes du désir. Et pourtant, de manière étonnante, cette présence du corps a été négligée par les commentateurs. Alors, ils parlent bien de biopolitique, de matérialité du pouvoir ou encore de folie, mais pas de corps en tant que tel. C'est donc pour pallier cet oubli, retrouver la question du corps chez Foucault, qu'Arianna Sforzini a écrit ce petit livre paru aux éditions PUF dans l'excellente collection Philosophie. À travers les différents angles de l'œuvre de Foucault, quatre en tout, l'observation des corps, leur gouvernement, l'épreuve du corps et le souci de soi, et enfin les corps qui bataillent et qui militent, le corps foucalien est précisément dessiné. Cet ouvrage est un compte-rendu précis de la question. Mais l'essentiel est en fait ailleurs. La chose qu'on peut retenir, c'est que le corps est plus qu'une simple thématique chez Foucault. Cette question reflète toute son approche, sa méthode, la spécificité de sa pensée. En lisant cet ouvrage, vous ne trouverez pas une définition du corps, un concept corps, un universel et nécessaire proposé par Foucault, comme vous ne trouverez pas d'ailleurs une définition du pouvoir, de la sexualité ou de la folie dans toute son œuvre. Vous trouverez donc une multiplicité de corps. Pas un corps, mais des corps qui résistent à l'utopie de l'âme, à l'utopie du sujet individuel, des corps qui le débordent, par le plaisir par exemple. Contre l'utopie de l'âme, Foucault propose donc une utopie du corps, lieu d'où tout part, et capable de transfigurer ces mondes.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
Michel Foucault, Une pensée du corps, d'Arianna Sforzini, aux éditions PUF.
Du mystère de la mort à la résistance du corps, c'était le programme du jour. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à la pensée de Jean Kelevitch. Demain, je recevrai la philosophe Joëlle Ancel qui viendra vous parler du charme de la morale. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, concernant la mission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook, où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.